des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission consacrée à la colère et à la peur, à la rage et à la rancœur. Oui, en lisant les deux livres des auteurs invités aujourd'hui, c'est ce que l'on ressent, colère et peur, rage et rancœur, état d'âme, sentiment certainement actuel et pas étonnant. Après tout, un écrivain est aussi un thermomètre, il sert aussi à mesurer la fièvre. Et ici dans cette émission, la température, la fièvre du temps, on aime la prendre. Le temps des écrivains, c'est aussi les écrivains dans leur temps. Et c'est deux écrivains dans leur temps que nous accueillons, Éric Villard, prix Goncourt 2017 avec l'Ordre du Jour, et qui revient avec La guerre des pauvres chez Actes Sud, présenté par cette phrase « Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme les fantômes sortent des murs ». En face de lui, un cas, un drôle d'oiseau qui ne pépille pas parce qu'il a la voix grave, un cas parce qu'il est écrivain, qu'il est aussi chanteur, musicien, acteur aussi, c'est Bertrand Belin qui publie Grand Carnivore chez POL, en même temps d'ailleurs un album Persona chez 5-7 Vagram. Bonjour Bertrand Belin.
Bonjour.
5-7, hein, c'est ça, j'ai pas fait de bêtises. Je le disais, vous êtes auteur, compositeur, interprète, voix. En fait, celle que vous aviez par exemple sur Dimanche de Liminianaz. Comment on disait « J'ai une amie, Vicky ?»
J'ai une amie, Vicky. Son vrai nom est Suzy. On l'appelle Sou. Je l'appelle Vi.
Ah, j'adore. C'est un souvenir permanent pour moi. Ah oui. Six albums déjà.
Voilà.
Le dernier s'intitule Persona. Et trois romans. C'est le troisième, hein, chez
POL. Troisième, chez POL, oui, en effet.
Il y a eu Requin, Littoral, et puis celui-ci, Grand Carnivore. Alors, Requin, Littoral, Grand Carnivore, ça se suit, comme si le requin s'approchait du littoral pour manger. Mais en fait, non, il s'agit pas de requin, il s'agit de lion qui s'échappe d'un cirque et qui sème la peur dans une ville portuaire. Vous êtes né près de la mer, à Quiberon. On la sent, cette proximité de la mer. Des lions, je disais, qui ne sont peut-être qu'un prétexte, un deus ex machina, car ce qui compte, je trouve, c'est cette faune humaine que vous mettez en place, notamment lui. Alors c'est le personnage principal de ce livre, le récemment promu nouveau directeur des entreprises, alors de Boulon, Fer, Vis et autres, Roudanté. Et vous le répétez, ce titre, comme lui doit se le répéter, tout fier de sa fonction. Récemment donc promu, il doit aller voir une exposition car cet homme est un frère et il a un frère qui est peintre, qui est artiste et dans la même ville, il hait la peinture de son frère, il hait les artistes qui sont pour lui au mieux des parasites, des individus qui couvrent le monde de souillure, un monde que lui voudrait voir plus ordonné, plus militarisé, et, disons-le, moins libre, peut-être un peu plus fasciste. D'ailleurs, il a la nostalgie, votre personnage, de quelques défilés militaires aux bottes bien lustrées qu'il ravissait il n'y a pas si longtemps, et pourvu que ça revienne, se dit-il. Il y a quelque chose de pourri, Bertrand Belin, dans le royaume de vos grands carnivores, comme disait Shakespeare du royaume du Danemark.
Oui, tout est pourri hein, dans l'ensemble. Hein. Non, il y a quelque chose de pourri, en particulier ce personnage du récemment promu, là, qui était une forme de caricature d'un capitaine d'industrie bedonnant, comme on pouvait en voir dans le cinéma des années 10-20, une sorte de le monsieur à cigare chez Chaplin, avec ses bretelles et
son
arrogance. Ce qui est pourri en particulier, c'est la relation du haut et du bas, quoi. Le silence qui règne dans les étages intermédiaires, silence qui est incarné par la rumeur du danger que la population court et la fuite des fauves, quoi. C'est tout cet étage du milieu qui est rendu opaque et impénétrable par la peur, hein, qui maintient les princes loin de leurs sujets, quoi.
Ouais. Bonjour Éric Villard.
Bonjour.
Voilà, c'est un peu tout le contraire de chez vous, parce que là, les princes, ils sont directement exposés, menacés, tués, égorgés, décapités par les pauvres qui sont en guerre, hein, dans ce petit livre, La guerre des pauvres, chez Actes Sud, livre pas du tout programmé, en tout cas, il n'était pas sur les programmes d'Actes Sud, et puis il surgit tout seul, là, en même temps. Les exaspérés sont ainsi, je vous citais, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme les fantômes sortent des murs, avec ce mot « peuple » qu'on n'a jamais autant entendu qu'en ce moment. Mais dans un texte dont l'action n'est pas contemporaine, puisqu'il nous emmène au XVIe siècle, à l'époque de la réforme protestante, au moment où une partie du peuple se soulève contre les princes, contre leurs privilèges, un peuple certainement lassé qu'on leur promette l'égalité au ciel et pas sur la terre. Il se rebelle donc sur la terre, mais il y a un vrai leader, il s'appelle Thomas Müntzer, il a existé, hein, et la révolte qu'il a menée d'ailleurs s'appelait, vous parliez Bertrand Belin du monde du milieu, c'est le soulèvement de l'homme ordinaire. Alors ça fait signe évidemment, c'est un gilet jaune du XVIe siècle ce Thomas Müntzer.
En tout cas, disons que si la structure sociale a beaucoup changé, les inégalités demeurent, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les économistes sont tous d'accord aujourd'hui pour nous dire qu'elles se creusent de façon abyssale depuis longtemps. On a même eu, je crois, l'année dernière, un organisme célèbre qui nous a dit que 42 personnes possédaient à elles seules davantage que les 3,7 milliards les plus pauvres. Vous voyez que 42 contre 3,7 milliards, l'ancien régime n'a rien à envier à la période moderne, d'autant plus que ces 42 font pas partie, disons, d'États périphériques ou de dictature, la plupart d'entre eux font partie des démocraties parlementaires. Vous voyez, donc la structure a changé, mais l'essentiel demeure, quoi, les inégalités qui sont l'élément central, enfin, de la structure sociale. Alors, sur juste une chose, il y a effectivement dans mon livre, il y a des décapitations, mais il y a beaucoup de pauvres qui se font décapiter aussi.
Tout le monde se fait décapiter.
Voilà, puisque c'est même l'essentiel tout de même, c'est que cette révolte donc va se clore par différentes batailles et l'homme ordinaire va subir des dizaines de milliers de pertes. Donc il y aura énormément de morts du côté des émeutiers du soulèvement. La répression va être vraiment...
Oui, c'est réprimé.
Oui, va être vraiment sanglante. Alors sur le fait du leader, oui, c'est le point qui est proche de nos jours, c'est qu'au fond, si ça s'appelle le soulèvement de l'homme ordinaire, ce qui est effectivement un terme qui nous fait signe, ou de l'homme du commun, c'est qu'au fond, c'est assez hétérogène. On trouve aussi bien des paysans que des gens des villes, petits commerçants, artisans ou petits bourgeois.
Oui, c'est composite. Hein,
absolument, c'est très composite et aujourd'hui, c'est le cas, effectivement. On assiste en ce moment à un soulèvement très, très composite. Ce qui fait qu'il y a un rapport, là, d'une certaine façon. Il faut que ces gens-là trouvent quelque chose en commun. Et du coup, la revendication commune, c'est une revendication qui est liée à l'égalité, en fait. Et comme vous le disiez jadis, donc l'égalité sur Terre. Mais la différence, c'est que la société, évidemment, de 1525 est une société beaucoup plus hiérarchisée que la nôtre à certains égards, et notamment hiérarchisée par le rapport à l'écriture. Si bien que la plupart des gens étant analphabètes, ils ont besoin, sans doute, de personnes qui soient capables d'écrire, de transmettre leur doléance. Et donc, ce sont, dans cette société-là, des théologiens, puisqu'on est en pleine réforme, c'est-à-dire des gens qui ont déjà admis, intégré cette nouvelle subjectivité dont Luther est à l'origine, à savoir une subjectivité critique qui relie les textes, qui est capable de les interpréter, et ils vont en quelque sorte plus loin que Luther, ils revendiquent pour eux-mêmes le droit d'interpréter leurs textes, d'élire leur pasteur, et l'un d'entre eux, donc, qui se place à la tête de ce soulèvement, est Thomas Müntzer, et qui est donc à la fois un théologien de première importance, et en même temps l'un de ceux qui aura la conscience sociale la plus vive.
Vous avez eu le temps de lire cette Guerre des pauvres, Bertrand Belin ?
Oui, bien sûr, c'est formidable. C'est vrai qu'il explose à la conscience ce rapport, cette espèce de pli dans l'histoire là, qui nous fait toucher des extrémités qui se ressemblent. En effet, j'ai adoré la lecture de ce livre. J'ai appris évidemment en plus beaucoup de choses sur ce soulèvement paysan allemand.
Ce qu'on ne connaît pas, c'est vrai que
c'était un personnage que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas l'histoire. Et cet événement de la révolte paysanne, je ne sais pas quelle place est là dans la mémoire collective de la population allemande.
Importante. Oui, et Müntzer est connu en Allemagne beaucoup plus qu'ici, en tout cas.
Oui, il est considéré comme un proto-communiste par certains.
Il a même été sur les billets en Allemagne de l'Est.
Oui, donc il a été réhabilité d'une certaine façon, quoi. Enfin,
réhabilité et même déplacé presque. Hein, encore qu'il s'agissait aussi de théologie dans le monde de l'Est. On peut parler de ça, de messianisme. Vous l'avez rencontré comment, vous, Thomas Müntzer?
Alors de plusieurs manières. D'abord, je le connaissais par les livres, puisqu'il y a eu plusieurs livres importants sur lui de la part d'historiens. Donc j'avais lu Ernst Bloch, Engels a écrit sur lui. Mais c'est lorsque la première prison privée, prison Bouygues, a été inaugurée, que regardant les actualités, j'aperçois une photographie du baptistère de Poitiers qui avait été tagué. Le tag était en latin, c'était Omnia sunt communia, ce qui signifie toutes choses sont communes. Et je me suis souvenu à ce moment-là que c'était un des mots d'ordre du soulèvement de l'homme ordinaire et de Thomas Münzer. Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu les œuvres de Münzer, donc je les ai cherchées, donc, je les ai lues.
Ça a de l'allure en latin. Hein.
Oui, absolument, mais en français, c'est pas mal noté. Et donc, en lisant Münzer, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais affaire, non seulement, enfin, c'est un théologien très important, mais c'est un écrivain. Enfin, il y a vraiment un souffle.
On en parlera parce que c'est aussi, effectivement, le flamboiement des mots. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, on a besoin, ce sont aussi des écrivains, comme Luther d'ailleurs, parce que les 95 petites propositions, petits textes, etc., sont totalement éruptifs aussi.
Absolument,
et,
oui,
et c'est flamboyant. Merci à tous les deux, Bertrand Belin et Éric Viard, d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai lu les deux textes coup sur coup, en ressentant la même température, presque, la même atmosphère, mais comme venu de deux camps. Non que vous soyez opposés, mais vous parliez de ce personnage, Bertrand Belin, qui veut l'ordre, ce personnage bedonnant, qui adore les défilés militaires, qui en appelle presque à un soulèvement réactionnaire, il a envie d'en découdre. Et puis, chez vous, Éric Viard, c'est le soulèvement révolutionnaire aussi d'un peuple qui a envie d'en découdre. Je voulais commencer sur ce point-là avec vous deux. Je parlais de température, je parlais de thermomètre. Est-ce que vous pensez qu'un écrivain, un artiste, hein, un chanteur, toute forme, disons, artistique incarnée dans un homme, est-ce que cet homme-là, il a le devoir, finalement, d'être le thermomètre de son époque, avant peut-être d'en devenir le sismographe? Est-ce que pour vous, c'est ça, un écrivain, un artiste, quelqu'un qui ressent la température et qui transmet ce qu'il ressent?
Je crois que c'est inévitable. De toute façon, si on faisait l'effort d'essayer de contourner cette donnée, on n'y arriverait pas. Je pense que écrire un conte pour enfants qui met en scène un ananas et une grenouille contourne pas sa modernité, quoi. Pour ce qui me concerne plus personnellement, j'ai pas eu le projet d'écrire un livre qui serait en conscience le reflet de l'époque dans laquelle il est produit, mais disons que c'est un livre qui est travaillé par son temps, quoi, par ce dans quoi il est baigné au travers de mon expérience vivante.
Parce qu'il y a quand même des phrases troublantes, évidemment, on les prend comme un... On a l'impression qu'elles émanent, et d'ailleurs, vous l'écrivez aujourd'hui, hein, mais quand on lit l'époque est sinistre, il s'y redoute et s'y désire une apocalypse salvatrice, purificatrice. Quand on lit aussi ce qu'il faut à l'Empire unifié, c'est un homme providentiel. Un désir de lutter s'empare du petit monde décongelé. Une colère véritable prise pour combien de temps dans l'ambre de la désespérance. On a l'impression, même si vous ne, ils sont pas, on ne sait pas d'ailleurs quand ça se passe vraiment, ni où ça se passe. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous parlez d'aujourd'hui, totalement.
Oui, mais il s'agit aussi de... En parlant de soi, on fait des découvertes intéressantes, hein, parce que cette désespérance prise dans l'ambre, ce sentiment d'incapacité d'action, ce sentiment de gêner la marche du monde, d'une certaine façon de gêner. Je ne suis pas, peut-être aujourd'hui, en vous parlant, celui qui la ressent le plus fort. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont ce sentiment presque de gêner la marche du monde telle qu'ils voudraient aller, quoi. Hein, c'est-à-dire une espèce de combat de titans entre capitaines d'industrie internationaux, et puis une variable d'ajustement en chair et en os qui, finalement, qui est le problème de ces gens-là. C'est ça le problème. Donc, passer une vie à avoir le sentiment de gêner la marche du monde, c'est sordide.
Enfin, il y a aussi les autres, il y a aussi les artistes, hein, dont on parlera à fond tout à l'heure, qui, eux, se disent, pour ça que je citais cette phrase avec l'apocalypse, l'apocalypse en grec, c'est le dévoilement, et eux, ils disent, mais en fait, Il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a un nouveau monde qui peut advenir de ça. Ils parlent de leur modernité. Oui. Donc il y a à la fois, disons, les tenants de l'ancien monde qui ont l'impression de gêner ce nouveau monde qui voudrait éclore. Et puis, il y a à la fois les possédants qui voudraient retourner aussi à l'ancien monde. Et puis, les artistes qui se disent, au fond, quelque chose va advenir, en fait. Après la brume et les nuages et l'orage, il y aura quelque chose de nouveau.
Le possédant dont il est question, le récemment promu, lui, il a le sentiment d'en appelant un nouveau monde, un nouvel ordre, il a le sentiment de se placer dans une trajectoire progressiste, en fin de compte. Or, il veut revenir au contraire à une féodalité encore plus efficace, quoi. Donc, c'est plutôt un maintien que
un maintien de l'ordre, exactement. Éric Viard, sur cette notion de l'artiste qui sentirait les choses, je disais, le livre, j'ai l'impression qu'il est sorti en douce. Ce livre-là, avec évidemment La guerre des pauvres, signé Éric Viard, là, en janvier, je disais, ça fait signe, enfin, on n'est pas seulement chez Barthes, mais quoi, il y avait ce devoir aussi de produire un texte sur une situation qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui parle d'aujourd'hui.
Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bertrand Belin, c'est-à-dire on peut pas, de toute façon, on baigne dans son temps et il n'y a pas d'un côté la littérature ou l'art et puis de l'autre côté la vie sociale et politique.
Enfin, certains l'ont pensé. Hein,
oui, certains
l'ont pensé. Quand Mallarmé faisait ses très très beaux poèmes, il n'était pas forcément, il était dans son temps et il était pas dans l'actualité. Et puis parfois, des écrivains ont méprisé l'actualité.
Oui, alors en fait, il faudrait y regarder de près. En fait, à chaque fois, c'est pris dans un temps particulier. C'est-à-dire que, par exemple, enfin pour le dit rapidement, on voit bien que l'art pour l'art, c'est pendant l'Empire que ça se déploie. En réalité, c'est une sorte de position de repli aussi, et il y a un dégoût du monde qui les entoure. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que, disons, une position de ce type pendant un moment insurrectionnel. Voilà. Donc, il faut regarder le contexte pour voir quelle est la position de l'art. Il n'y a pas de position définitive. Et puis, quand bien même on veut y échapper, en fin de compte, on y est quand même. C'est-à-dire, pour donner un exemple de ce qu'est le contexte, on voit la marque très forte qu'il a quand on regarde par exemple l'œuvre d'Hugo et l'œuvre de Dickens. Dickens, il y a quelque chose de très émancipateur chez Dickens. Mais on voit bien quand même qu'il est pris dans une société, lui justement, encore d'une certaine façon féodale, tout à fait différente de la nôtre à ce moment-là, et que, de fait, la littérature de Dickens est une littérature profondément de la charité. Les personnages, les enfants sont tout à coup perdus, égarés, leur famille d'origine, bourgeoise, ou etc., les pères, ils vivent des tribulations dramatique et à la fin ils retombent dans leur milieu. C'est comme un conte pour enfants. Chez Victor Hugo, la chose est beaucoup plus réaliste, elle est tout à fait différente et elle est dépouillée au fond de cette fable. Donc évidemment que leur subjectivité propre a joué un rôle dans cette partition, mais aussi le monde dans lequel ils baignaient.
Alors c'est intéressant, vous parlez d'Hugo, vous parlez de Dickens, qui sont des auteurs, Eric Wheeler, qui racontent le monde dans lequel ils vivent. Or, chez vous, comme chez vous d'ailleurs Bertrand Belin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'air d'accord sur le côté engagement de l'écrivain dans son époque, mais alors Bertrand Belin, je le disais, on ne sait pas exactement quand et où se passe ce grand carnivore, si ce n'est que c'est dans une ville, près d'un port, avec une sorte de cité lacustre où vivent les pauvres. On parle de chevaux, d'un cirque qui arrive dans une ville, de bottes aussi lustrées militaires.
Elles vous ont plu, ces bottes.
Ah, les bottes, dès que j'entends bottes, moi, vous savez, je suis mis en alerte, voilà. Les bruits de bottes, ouais. Ça. Et de votre côté, Eric Villard, au fond, vous nous plongez dans le XVIe siècle, donc c'est pas notre époque, comme s'il fallait décaler le regard légèrement pour mieux regarder l'époque. Ça m'a vraiment frappé chez tous les deux. Vous avez cette même méthode, en fait. Soit brouillé, chez vous, Bertrand Belin, ça parle d'aujourd'hui, mais en fait, on sait pas trop. Soit changement d'époque, changement de lieu aussi, puisqu'on est en Allemagne, chez vous, Eric Villard.
Je pense que c'est une forme de nécessité. D'abord, d'une certaine façon, le présent, jusqu'à il y a peu, était flou, et il l'est toujours à certains égards. Bon. Mais surtout, si on prend une autre position, si on se souvient de Zola et de ses enquêtes, la différence, c'est que, d'abord, Zola peut parler, par exemple, dans l'argent, des milieux financiers, parce qu'un écrivain, à ce moment-là, un écrivain célèbre, en tout cas, fréquente tous les milieux, à travers les salons, donc il connaît ces gens-là, il peut donc parler. Or, nous, aujourd'hui, précisément, nous ne fréquentons pas.
Vous pourriez, il y a un prix Goncourt pour être
le statut de l'écrivain a profondément changé, oui. Au fond, il y a le fait qu'il y a un certain milieu donc auquel nous n'avons plus accès, mais l'autre non plus, c'est-à-dire pour d'autres raisons. Quand Zola va enquêter pour Germinal, aujourd'hui, on l'entend précisément dans les mouvements, le soulèvement auquel, au fond, on assiste en France, les gens veulent plus qu'on parle à leur place, ils veulent pas qu'on les étudie. Donc, du coup, on est dans un rapport assez particulier, et à certains égards, pour moi en tout cas, l'histoire est un recours.
Bertrand Belin.
Oui, absolument. Alors, en effet, j'utilise une façon un peu détournée de parler du monde dans lequel je suis plongé, mais c'est aussi que je n'ai pas l'intention de parler du monde dans lequel je suis plongé. C'est que j'ai écrit ce livre aussi, ce livre m'a un peu surpris aussi. Hein. Je me suis mis à écrire parce que j'ai travaillé aussi dans les nerfs par les trois années, quatre années qu'on vient de vivre à Paris, où la tension a été beaucoup montée. Où des drames très sérieux ont eu lieu, où se promener dans la rue prenait une autre couleur, une autre température. La nature même des formes, le clinquant des choses avait changé un peu. Il y a eu une sorte de surlucidité. Les choses ont repris leur nom et leur forme. Enfin, un escalier, un train, un horaire, toutes ces choses triviales se sont rappelées à nous. C'est-à-dire qu'on se promène plus en ville de la même façon. Donc j'ai écrit ce livre aussi sans me rendre compte de quel sujet j'avais.
Mais vous brouillez l'époque. de brouiller le lieu.
Bah, brouiller l'époque.
On n'est pas à Paris. Paris, cette cité lacustre.
Bon, il y a d'autres raisons, bien sûr. Il y a cette raison qui tient à la non-préparation du sujet, si on veut. Mais il y a aussi que entreprendre l'étude du monde tel qu'il est, d'une part, ça pose le problème des accès dont on vient de parler régulièrement, mais aussi la capacité aussi à apporter une réflexion, sinon une recherche approfondie sur des dossiers, sur des épaisseurs administratives, qu'il faudrait savoir de quoi on parle, de comment est construite l'assujettissement aujourd'hui, en d'autres termes qu'en termes émotionnels, quoi. Qu'est-ce qu'il a fabriqué, ou qu'il a fabrique, ou qu'il a maintient en vie, quoi.
Donc ce sfumato, le fait d'estomper comme ça, vous permet finalement de parler de ce monde sans... sans aussi devoir
entreprendre une recherche d'historien que je ne suis pas et me confronter à des problématiques qui repousseront éternellement la publication de ce livre.
La notion d'engagement, Éric Vuillard, ce mot-là, hein, engagement, on a parlé des écrivains... écrivains engagés, c'est une notion qui vous paraît encore pertinente, en tout cas pour vous, hein, c'est-à-dire d'être un écrivain engagé, ou on peut plus se définir comme écrivain engagé, parce que c'est peut-être trop chargé, évidemment, n'êtes pas pilote de chasse aux côtés des républicains espagnols, vous dites on peut plus étudier les gens, un écrivain ne peut plus se pencher sur son sujet, néanmoins vous le faites d'une autre façon, mais est-ce que vous diriez que vous êtes quand même engagé? Voilà.
Je pourrais pas employer ce terme pour les raisons que vous venez de dire. C'est-à-dire que précisément, le contexte a tout à fait changé et que l'intellectuel, en ce sens, a disparu. Enfin, c'est ni d'ailleurs que je le déplore, etc. C'était, bon, les choses apparaissent et disparaissent. C'est que tout
l'intellectuel
simplement.
L'intellectuel a disparu.
Au sens d'intellectuel engagé, au sens du coup, ou cette notion, enfin, intellectuel engagé, le mot engagé vient remplir, comme ça, la notion d'intellectuel d'une façon qui était, pour ainsi dire, sans précédent. Enfin, disons, entre Zola et Sartre, l'arc. Mais le point principal, en fait, qui fait qu'on est désarimé de ça aujourd'hui, c'est que justement l'intellectuel ne peut plus se dire adossé à une communauté. Et vous voyez, comme je le disais aussi tout à l'heure, il se trouve que précisément les gens ont plus envie qu'on parle d'eux à leur place non plus. Donc à ce moment-là, l'intellectuel n'a plus qu'une solution, c'est de se fondre dans la foule.
On va commencer par votre choix musical à vous, Éric Vuillard, avant de parler de cette guerre des pauvres. Vous avez choisi un morceau baroque, Heinrich Schütz, petit concert spirituel numéro 4. Heil mich Gott zu erretten. René Jacobs, on écoute.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Heinrich Schütz, petit concert spirituel numéro 4, Heil mich Gott zu erretten, dirigé par René Jacobs. Éric Vuillard qui publie la guerre des pauvres chez Actes Sud. Il est en studio avec Bertrand Belin, grand carnivore chez POL. C'est une émission sur la colère, sur le soulèvement, sur la peur aussi qui sourd, qui suinte de ces deux livres. Pourquoi ce choix musical, Éric Vuillard?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est beau, ensuite parce qu'il y a une forme de ferveur en fond particulière. Heinrich Schütz était un compositeur protestant, donc d'une certaine façon, même si c'est anachronique, c'est après le soulèvement de l'homme ordinaire dont on parle, malgré tout c'est dans ce monde-là, enfin celui qui a été dessiné justement par la réforme, et puis parce que ça parle aussi de la contingence des œuvres, puisque ce sont les petits concerts spirituels ont été écrits et composés et joués pendant la guerre de 30 ans, et au fond c'est pour ça qu'ils sont petits, et c'est pour ça qu'ils ont aussi sans doute cette forme de gravité, c'est-à-dire le contexte tragique en Europe centrale et en Allemagne, et la nécessité donc pour un compositeur de composer pour de petites formations aboutit à cette musique très particulière et très belle.
Alors je le disais, vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, la guerre des pauvres surgit donc en ce janvier 2019, en plein milieu d'un soulèvement de l'homme ordinaire, hein, puisque c'était l'expression de Thomas Müntzer qui est le héros de ce nouveau livre. Pourquoi surgit-il ce livre comme ça, non annoncé, un peu en douce, comme ça, nous surprenant
Parce que tout simplement, il m'a semblé, comme je disais tout à l'heure, que il n'y a pas la vie littéraire d'un côté, la vie sociale et politique de l'autre.
Mais il était prévu, là, il était écrit.
Oui, tout à fait, oui, absolument. Oui, il était écrit depuis longtemps et il était prévu pour le printemps. Et donc, je me suis dit que là, ce serait...
Oui, c'est ça.
Il n'était plus possible de le différer.
D'accord. Alors, ce livre, je le disais, La guerre des pauvres, nous plonge au XVIe siècle, donc à l'époque de la Réforme. Pas en France, mais en Allemagne, au moment où une partie du peuple se soulève contre les privilèges des puissants. Ces gens sont lassés qu'on leur promette l'égalité au ciel et pas sur la terre. D'ailleurs, elle est menée par des théologiens, cette révolte, notamment ce Thomas Müntzer. Et la révolte qu'il a menée, vous le disiez, a été nommée le soulèvement de l'homme ordinaire. Et ça nous fait signe, évidemment, vous nous racontez la révolte, les soulèvements, la grande violence aussi, en petite scène, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous étiez venu dans cette émission pour 14 juillet. Je voudrais qu'on vous entende lire, Éric Vuillard, pour que les auditrices et les auditeurs se rendent compte de l'effet d'écho de ce petit livre. C'est un petit livre, 80 pages, extrêmement dense, très rythmé. Et voilà, on lit ça dans ce livre, page 19.
En 1380, le Parlement vote une nouvelle poll-taxe, et voici que brusquement les paysans se soulèvent. La révolte commence à Brentwood. Les routes sont coupées, les châteaux brûlent. Puis ça se propage dans le Kent, dans le Norfolk et le Sussex. Et John Ball fulmine. Il prêche l'égalité humaine. Les auberges sont pleines de pèlerins et de fous. À Colchester, entre les ballots de laine et les chapelets d'oignons, on parle. En Anglie de l'Est, on parle. Partout, la poll-tax est contestée et les hiérarchies remises en cause. Les nobles fuient, les soldats désertent. Les rues des villages sont encombrées d'épaves, charrettes renversées, sacs de terre. Le pouvoir est inquiet. Le duc de Lancastre donne ses ordres, il faut arrêter John Ball. Au mois de mai, on parvient à mettre la main sur le prieur et on l'emprisonne à Maidstone. C'est alors qu'un autre homme s'éveille, pas très loin, dans le Kent, un ancien soldat, ayant servi en France, a repris son métier de paysan. Un matin, le percepteur vient prélever la taxe. Wat Tyler n'est pas là. Il est allé couper du bois dans la forêt. Sa fille ouvre la porte, et l'homme entre chez eux. Ils réclament leur contribution, mais la jeune fille ne peut pas payer. Ils ont à peine de quoi vivre. Le percepteur lui arrache sa robe, il la jette sur une paillasse, et il se paie. Elle a 15 ans, elle est jolie, elle est la valeur même. Mais la progéniture des pauvres ne vaut rien. Ses lèvres sont bleues à présent, elle a froid, elle titube sur le petit sentier bordé de murs. De loin, son père la voit. D'énormes masses de nuages rasent le sommet des arbres. Le cerf frémit dans son cuir. Wat Tyler porte sa fille à la maison, il la porte dans ses bras comme un cadavre, il la confie au voisin, et il court à travers la colline, il veut rattraper l'attelage du percepteur en coupant par le bois. Il arrive à la route et s'accroupit, essoufflé. Il se demande si l'homme est déjà passé, mais à peine se l'est-il demandé qu'il entend le martèlement d'un galop.
Merci Éric Vuillard, La guerre des pauvres chez Actes Sud. Alors, c'est toujours les impôts, la poll-taxe, les impôts, toujours.
Oui, il se trouve que dans l'histoire des révoltes, on trouve très fréquemment comme étincelle les impôts, ce qui est tout à fait normal, puisqu'au fond, la juste répartition des impôts et de la participation à la vie collective est tout de même un problème absolument central.
Alors, vous étiez venu ici même avec un livre qui me semble vraiment faire écho à celui-ci, donc c'était 14 juillet, c'était avant l'ordre du jour, qui était le récit d'une des périodes historiques les plus célèbres de l'histoire de France, la prise de la Bastille, un court récit qui donnait à revivre la prise de la Bastille ainsi que les heures qui la précédaient et qui la suivaient et qui nous donnait à voir la révolution, une révolution en tout cas en train de se faire avec son peuple, avec ses hommes, ses femmes, un pont-levis, des morts, des héros, des noms. Vous aviez expliqué à l'époque qu'il s'agissait pour vous non pas de faire le tableau de cette longue journée qu'a été ce mardi 14 juillet 1789, mais une partie seulement de ce tableau, celle des, et je vous cite, des ombres familières aperçues au fond de ce tableau. Ces ombres qui font partie du décor de la peinture, du décor de l'histoire, mais discrètes, anonymes. mais qui finalement vont donner à ce tableau toute sa profondeur. Là, les ombres, on le disait tout à l'heure, sont pas du tout familières à une lectrice, à un lecteur. C'est Munzer, c'est Wat Tyler, c'est Wycliffe, c'est John Ball. Pourquoi les avoir choisis, ces ombres-là?
Au fond, ce qui m'intéressait là davantage, c'est le mouvement, d'une certaine manière. Effectivement, avec 14 juillet, c'était de raconter un 14 juillet que je croyais plus fidèle, enfin que je crois plus fidèle à ce qui s'est passé ce jour-là, c'est-à-dire une insurrection sans meneur, qui est donc un fait collectif. Et on a les moyens, grâce aux archives, puisque ça a été une victoire, évidemment, et qu'ils ont du coup laissé des traces, de reconstituer, au fond, des bribes d'action, de les recoudre entre elles, pour donner à voir, justement, une sorte de récit collectif, qui est au fond aussi un des rêves de la littérature. D'en finir avec les héros et les personnages principaux. Là, c'est autre chose, c'est comme un relais au fond, c'est-à-dire, vous le disiez, les émeutes, ça revient, quelque chose s'entête dans le rapport à l'inégalité. Les gens acceptent mal, se satisfont mal de la hiérarchie et des différences. Et donc, tous ces noms, cette cascade de noms et d'histoires, tentent par l'écriture, sans doute, de ressaisir quelque chose de ce mouvement.
Et même si on les connaît pas, même si c'est une réalité, c'est oui. Vrai, on le disait avec Bertrand Belin, cette révolte paysanne au XVIe siècle en Allemagne, en France, on n'y est pas familier.
Oui, alors là, c'est l'Angleterre, mais malgré tout, on les connaît d'une manière. Ouais. John Ball, vous voyez, oui. John,
Munzer, c'est l'Allemagne, et oui.
Voilà,
et
on a tous ces noms, ce sont, pour une part, ce sont des noms du peuple, au fond, alors ce sont les noms d'autres peuples, mais le cinéma américain nous les a fait connaître. Et la singularité, je pense, en l'écrivant de ce livre pour moi, c'est qu'au fond, je me suis rendu compte que d'habitude, on écrit toujours une histoire, enfin, on écrit la plupart du temps une histoire ou un roman, même comme quelque chose d'achevé. Un roman, on en connaît la fin, pas toujours, mais souvent, une histoire, les historiens travaillent sur une période close, même si elle s'effrange. Là, au fond, la particularité de ce livre et de mes livres, je pense en général, mais de ce livre plus particulièrement, puisqu'il concerne ce mouvement-là, c'est qu'au fond, l'histoire de l'émancipation n'est pas terminée, et je suis pris en elle, comme tout le monde.
D'ailleurs, je cite, alors je ne spoile pas, comme on dit dans le monde des séries télévisées, mais je ne gâche pas du tout le plaisir des lectrices et des lecteurs, mais les deux dernières phrases, d'ailleurs, font totalement écho à ce que vous disiez. Le martyr est un piège pour ceux que l'on opprime. Seule est souhaitable la victoire. Je le raconterai. Donc, c'est ce que vous disiez. On sent que ce n'est pas terminé. Alors, j'avais une question là-dessus. La guerre des pauvres, comme d'ailleurs 14 juillet, est présentée comme un récit. Est-ce que vous choisissez le terme de récit, qui est ainsi défini par le Centre national des ressources textuelles et lexicales, comme cela, œuvre littéraire narrant des faits vrais ou imaginaire? Au fond, est-ce que vous choisissez le terme de récit pour rester formellement flou quand il s'agit de raconter une époque où on a l'impression que vous décrivez un monde qui se renverse et qui ne peut donc que renverser aussi les catégories littéraires, quoi? Parce que c'est étrange, au fond, cette marque Éric Villard, ces petits récits, ces pages d'histoire qui ne sont pas que de l'histoire.
Oui, alors, c'est qu'au fond, effectivement, je ne suis pas historien, c'est pas en tant que... ma position n'est pas celle d'un historien, c'est une position d'écrivain. Donc récit signifie ça. Si je mettais pas récit, je pourrais mettre autre chose, mais ça veut dire qu'il serait d'une autre nature. En réalité, il y a effectivement un travail d'histoire, mais par ailleurs, ce sont les ressources de la littérature que j'utilise. Je suis avant tout un lecteur de littérature. Bon. Mais le point, si j'appelle ça récit, c'est tout simplement, au fond, c'est pas du tout pour créer une sorte de genre particulier. C'est que je crois que la littérature au long cours, au fond, depuis la Révolution française, est un rapport au réel qui s'aggrave. C'est-à-dire, la Révolution française ayant eu lieu, le statut de l'écrivain se modifie. Il n'écrit plus pour les princes, il écrit pour tout le monde. Et donc, la plupart des gens ont envie d'entendre quelque chose sur le monde dans lequel ils vivent, et pas sur Phèdre seulement, ou l'Antiquité, vous voyez, ou les princes. Et donc, de ce fait, récit, c'est simplement un terme qui signifie que le rapport à la réalité est plus grand. Mais vous voyez, j'évoquais Zola tout à l'heure, il faisait des enquêtes, le rapport à la réalité était très fort, il appelait ça roman, donc c'est pas du tout une polémique avec le roman.
Puis le roman, c'est d'ailleurs Bertrand Belin, vous, c'est marqué roman sur ces grands carnivores.
Oui, oui, ouais. C'est la création d'un monde, quoi. Pour revenir un petit peu à la présence de tous ces noms probablement très connus des théologiens, des historiens, mais assez méconnus néanmoins dans le livre d'Éric Villard. Le livre, l'introduction, nous amène comme ça, nous présenterait un certain nombre de personnages comme avant d'entrer dans le vent de ce qui se présente ensuite comme caractère assez épique, qui m'a évoqué la chanson de Roland, finalement, ça m'a fait penser à ça, bien sûr avec d'autres fins que d'écrire une fausse vraie histoire, au contraire, parce que là il s'agit d'une précision, peut-être de quelque chose qui nous apporte une précision historique finalement, au contraire d'un récit tourné de manière à arranger les affaires des puissants, quoi.
La chanson de Roland, c'est pas mal comme...
Oui, donc, comme vous le disiez, effectivement...
Je voulais sourire.
Non, pas du tout, bah, je le prends pour un compliment, évidemment.
Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est aussi... Alors vous êtes peut-être d'ailleurs vous aussi fasciné par ce Thomas Müntzer, c'est qu'il prend la tête des pauvres au nom de Dieu. Et je voulais savoir, Éric Viard, quel rôle a exactement, pour vous, hein, puisqu'il n'est pas là pour que je lui pose la question, mais le rôle du christianisme, qui me semble à moi, quand je vous lis, davantage une arme stylistique qu'idéologique. Je vous cite, page 39. Et Müntzer ne se contente pas d'une exégèse châtiée, la température, voilà, on y est, monte encore. Il cite Jean. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être arraché et jeté au feu. Il cite Luc. Emparez-vous de mes ennemis et égorgez-les devant mes yeux. Il cite les psaumes. Dieu fracassera les vieux vases avec une verge de fer. Comme il est violent soudain, comme ça lui remonte par la gorge. Et dans cette terrible diatribe, il glisse quelques injures cocasses avec un sérieux effrayant. Au fond, c'est un écrivain. Il prend des mots qui tirent de la Bible. Il fait un mélange de haute culture et de basse culture en racontant des blagues. Il change les registres. Il fait un travail d'écrivain. C'est aussi un écrivain que vous réveillez, en fait. C'est un écrivain qui est à la tête des pauvres.
Oui, tout à fait. Oui, c'est un écrivain au sens où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la littérature est quelque chose qui est pris dans des circonstances et dans une conjoncture. La sienne est une conjoncture brûlante. Donc, pendant la réforme et notamment pendant le soulèvement de l'homme ordinaire, on va pas à ce moment-là écrire des poèmes, du théâtre ou des romans. On fait autre chose. Et donc, les écrivains, l'écriture se réfugie dans des formes de discours qui s'adressent à tous, au fond.
D'où le christianisme, en fait. D'où la Bible,
alors,
en fait.
Le christianisme, c'est un peu particulier. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien que dans notre temps, le soulèvement auquel on assiste, les gens recourent, en fin de compte, à l'appareil idéologique qui est là pour eux. Et celui qui est là, c'est la Révolution française, au fond. Puisque, on peut dire que la fin du communisme réel a rendu non disponible le marxisme. Donc, ils recourent, on voit bien, leurs références sont vraiment imprégnées par
constituante, voilà, et puis citoyen. Ouais.
Absolument. Donc, au fond, ce qui se passe, c'est que c'est leur façon à eux, aujourd'hui, de s'opposer à une certaine oligarchie. Dans le contexte de la guerre des paysans ou du soulèvement de l'homme ordinaire, au fond, il y avait déjà des grands carnivores, mais ça n'était pas les mêmes. C'était le pape, c'était les prélats. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est que l'appareil idéologique là, qui est à leur portée, dont les gens peuvent s'emparer, qui connaissent au fond dans lequel ils baignent, c'est le christianisme. Mais c'est le christianisme réformé. Donc c'est celui-ci.
Et c'est le verbe. Est-ce que vous n'êtes pas déçu quand même, vous qui êtes écrivain? Et je pourrais poser d'ailleurs la question aussi à Bertrand Belin. Vous qui nous présentez un Thomas Müntzer, justement, au verbe haut, flamboyant, donc un révolté au verbe haut et flamboyant, de voir le faible niveau, cette insurrection ou cette révolte des Gilets jaunes ne se caractérise pas par des prises de parole aussi flamboyantes que celles de Thomas Müntzer. On n'a pas la même verve et on n'a pas le même chatoiement, on n'a pas la même force, même verbale.
Alors, il y a deux choses. En un certain sens, heureusement. C'est-à-dire que ça signifie précisément que la parole s'est fragmentée. C'est-à-dire, tous les gens parlent. Donc, dans ce cas-là, on a d'autres phénomènes. La parole se déploie d'une autre façon. Donc, elle peut pas avoir cette autorité, évidemment. Et donc, en un sens, au contraire, ça signifie que ce mouvement-là est déhiérarchisé. Il est plus horizontal. Et c'est plutôt positif. Et puis, par ailleurs, il y a tout de même à la fois des slogans, des graffitis qui ont une certaine puissance. Quand on a vu sur l'Arc de Triomphe écrit comme ça, les Gilets jaunes triompheront. C'est à la fois très simple, mais enfin, ça rappelle quelques souvenirs. Il y a une colonne Vendôme, comme ça, qui a eu des problèmes, jadis.
Il y a aussi que le maniement de la langue, la puissance d'un orateur qui serait saillante dans cette histoire, conférerait du pouvoir à celui qui peut parler. Or, la question du leadership n'a pas l'air de se poser en ces termes dans ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Il n'y a pas de volonté d'élection.
Il y a une volonté de non-élection, d'ailleurs.
Il y a une volonté de non-élection. Or, je pense que les capacités de langage ont un rôle important à jouer là-dedans.
Avant de passer au grand carnivore de Bertrand Belin, quand on regarde vos livres courts, variés, mais qui semblent unis par la façon dont ils disent à chaque fois un chapitre de la grande histoire, de la domination des uns sur les autres. On parlait d'engagement tout à l'heure. C'est une mission que vous êtes donnée, chapitre par chapitre. Je le raconterai, ce que je citais tout à l'heure, la dernière phrase de ce livre. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y aura d'autres pages à venir. On a l'impression d'un grand livre comme ça, dont à chaque fois vous extrayez un chapitre, en fait.
Alors, sur la fin, c'est une manière de dire que, précisément, c'est une histoire qui n'est pas terminée. Et donc, c'est une manière, puisque le soulèvement de l'homme ordinaire et la répression va être sanglante, c'est une manière de terminer sur une note claire aussi. Mais, par ailleurs, non, c'est pas un projet, je tâtonne, en fait. J'ai écrit les premiers livres sans savoir que les autres viendraient. Et au fond, je pense que c'est ainsi que la subjectivité moderne fonctionne. C'est-à-dire que, il n'y a plus de totalité, ni dans le savoir, on peut plus écrire une histoire du monde, comme ça, de A à Z. Ça, c'est le rêve du savoir absolu, c'est dissipé en même temps, peut-être.
Non, il y a Wikipédia.
donc précisément, là, on a un rapport qui est de l'ordre un petit peu de l'enquête. D'abord, comme je le disais, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Mm. Donc, le réel pour nous est plus du tout le même.
Forme, ça, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais c'est l'impression qu'on a qu'à chaque fois, vous avez arraché quelques chapitres d'une grande histoire qui n'existe pas, mais dont nous, lecteurs, pourrions imaginer qu'elle existe. Là, c'est l'Allemagne, 16e siècle, Buffalo Bill sur la société du spectacle, l'ordre du jour sur le rapport entre fascisme et industrie. À chaque fois, on a ça.
Oui, ça, en fait, ça me vient à chaque fois par un détail, quelque chose qui vient sur un fond de connaissances. La réforme m'intéresse depuis très longtemps. C'est l'un des moments absolument déterminants de l'histoire du monde. Le christianisme se fractionne. Mm. Je disais tout à l'heure, c'est l'apparition d'une certaine manière de l'homme moderne, enfin du rapport à la critique, à l'interprétation de certaines formes de liberté nouvelles. Bon, donc. Tout à coup, il se trouve que, par hasard, en fait, de manière contingente, je tombe sur Munzer à nouveau, dans un contexte contemporain, comme je le disais, c'est-à-dire un graffiti. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, enfin, un graffiti en latin, aujourd'hui, donc j'ai envie de lire Munzer. Je le connaissais, mais je l'avais pas lu. Et en le lisant, je trouve un écrivain. Et son écriture, au fond, enfin, là,
vous contamine.
Oui, et m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a là un rythme, au fond, d'une certaine manière, la pulsation qu'il y a dans l'écriture de Munzer a un rapport avec pour lui le déploiement de la vérité. Et je pense d'ailleurs en général, c'est ça l'écriture, c'est toujours un certain rythme, c'est croire que l'abandon aux mots a quelque rapport à la vérité.
Bertrand Belin, vous qui avez la chance de pouvoir maîtriser deux formes d'art qui se rejoignent, qui se touchent, la chanson, la musique, la chanson en tout cas formellement, et le roman. Comment choisissez-vous, là Éric Vuillard vient nous parler de la façon dont il travaillait, que une histoire va être plutôt un roman ou un album, parce qu'il se trouve que vous publiez Grand Carnivore chez POL et en même temps un nouvel album, Persona, chez Wagram et 5-7 pour le label. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez une forme ou l'autre? Est-ce qu'un roman c'est une grande chanson? Est-ce que c'est un album, un roman?
Non, pas du tout, non. La chanson, j'ai écrit des chansons depuis très longtemps, donc c'est vrai qu'il y a un lien avec l'écriture, on s'en doute. Quand on écrit une chanson, il y a donc une partie des choses qui concernent les paroles, donc par conséquent, il est question d'organiser un petit peu les phrases. Donc le rapport avec l'écriture, il est là, mais depuis de nombreuses années, il est très contraignant, ce rapport à l'écriture, puisqu'il est soumis à la contribution de la musique, qui n'est pas simplement un accompagnement, mais qui apporte une tonalité, qui a un effet sur le sens même des choses, parfois sur le sens des mots.
Oui, mais au fond, Grand Carnivore, cette histoire de deux frères, un qui est artiste, qui est peintre, l'autre qui est récemment promu directeur d'une entreprise de boulons, homme de pouvoir, homme asservi aussi à la haine.
Vous imaginez mettre tout ça dans une chanson?
Je me dis, quand on voit ce port, par exemple, il y a ce labyrinthe où vivent les pauvres, une sorte de zone comme ça, interlope, lacustre, ce cirque qui vient s'installer avec ses chevaux qui défilent en maculant les trottoirs de crottins qui révulsent cet homme de pouvoir, les nuits aussi de création, de liberté en fait de ces artistes, cette vieille qui se fait agresser, peut-être dévorée par les lions, on ne sait pas, tout ça aurait pu donner aussi un album magnifique qui se serait appelé Grand Carnivore avec de la musique.
Oui, mais il ne s'agit pas tant d'écrire des livres ou d'écrire des chansons que de s'être retrouvé confronté dans la vie à un exercice, à une discipline, à un art, à une pratique. Finalement, tout ça n'est pas prémédité. Donc, il y a aussi une grande source de tout ça. La grande raison, c'est quand même le plaisir de former quelque chose qui finit par ressembler ou présenter des analogies avec texte qui se présente à mon esprit comme une forme d'idéal harmonieux, quoi. Donc le plaisir de construire un monde en dépit de ce qu'il va contenir, c'est bâtir, c'est construire, et puis le plaisir de la réflexion, de la pensée avec l'écriture au long cours est tellement différente de...
Qu'est-ce qui change d'ailleurs d'une chanson, de l'écriture d'une chanson?
Je dirais peut-être aller un peu vite, mais il s'agit dans les chansons plutôt de restituer une émotion par tous les moyens possibles. Quand j'écris, moi, c'est pour me mettre un peu au clair, de mettre les idées au clair, de découvrir, de me mettre presque en conformité a posteriori à l'écriture du livre avec ce que j'y ai mis, et découvrir comment je perçois le monde. C'est une pioche, en fait. C'est un outil. Je creuse avec ça. En écrivant, je creuse aussi pour mettre un peu de clarté devant mon regard, quoi.
Parce qu'il y a une chanson dans le nouvel album Persona qui parle du travail, où il y a le mot travail.
Oui, il y a beaucoup de fois le mot travail.
Voilà, qui est tout à fait en écho avec ce personnage qui travaille et qui perd sa vie. Il dit à un moment que son frère, qui est artiste, lui vit, alors que lui, il regarde sa vie parce qu'il travaille. Et le patron de l'usine dit, mais les chouettes voient peut-être aussi bien la nuit que le jour, quand sa fille lui fait remarquer ça, cette qualité de ces oiseaux nocturnes. Mais les chouettes ne travaillent pas comme moi 12 heures par jour. Donc il y a quand même des correspondances.
Oui, des correspondances, mais qui découlent de ce qu'on je pourrais qualifier d'obsession, ou en tout cas de ce par quoi je suis le plus facilement touché par le monde dans lequel je suis plongé, à savoir le contact quotidien avec des personnes en très grande difficulté, hein, qu'on croise dans la rue. N'importe quel habitant des villes aujourd'hui ne peut pas ignorer la grande détresse dans laquelle sont plongés un certain nombre de nos concitoyens.
Alors c'est vrai que je disais, on en a parlé pendant la première partie de cette émission, on a l'impression que cette histoire se passe dans un monde qu'on ne connaît pas, qui n'est pas identifié, contrairement à vous, Éric Villard. Les personnages n'ont pas véritablement de nom, la ville n'a pas de nom, on ne sait pas très bien dans quelle époque on est, et pourtant, ce livre qui est très habilement écrit, dont on sent que chaque phrase est très, très travaillée par un effet de brouillage, finalement, on a l'impression que ça nous parle d'aujourd'hui. Hein. Je citais cette phrase tout à l'heure, l'époque est sinistre, il s'y redoute et s'y désire une apocalypse salvatrice, purificatrice. Et on sent que dans cette ville, il y a deux courants. Il y a un courant réactionnaire qui voudrait l'ordre ancien, la purification, le nettoyage. Hein. Il est question de ça. On entend ces discours-là aujourd'hui.
Bien sûr.
Et puis le monde des artistes qui pense à un monde nouveau. Je voudrais qu'on vous entende lire, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la création, il y a la culture aussi au cœur de ce livre. C'est page 27, c'est un passage où le frère qui travaille, lui, qui a l'impression de travailler vraiment, va voir l'exposition de son frère artiste dont il pense qu'il est un parasite.
Pour mépriser le travail de son cadet, il a tout son temps. On peut le voir devant le grand format de la deuxième salle, se déhancher, changer de pied d'appui, le nez collé au tableau, à traquer les traces grossières que le geste sans grâce de son frère a certainement laissées sur la toile. Il veut le confondre en traquant son pouls malade qui bat dans ce qui lui semble n'être qu'un abominable relief de boue, de sang, de viscères et d'excréments étalés devant lui. Badigeon putride que la société qui l'entoure et le dégoûte a tout l'air de prendre contre tout bon sens pour de la peinture, quand ne se trouve là, selon lui, que la démonstration en couleur de l'état de délabrement dans lequel se trouverait bientôt l'Empire, si des gens comme lui ne se tenaient pas courageusement et judicieusement sur le qui-vive, prêts à user des moyens nécessaires.
J'ai choisi ce passage parce que je me suis demandé, en vous lisant, le mot parasite dont on parlait, on pourrait se demander qui engendre de tels parasites, c'est ce que dit l'un des personnages. Est-ce que pour vous, il y a en ce moment, dans ce climat, dans cette atmosphère qu'on respire aujourd'hui, une menace sur la création, sur la culture, sur ce genre de vie qui essaie d'échapper aux carcans normaux? Vous sentez on s'en prend à l'élite parfois, au monde de la culture, aux artistes?
Non, je ne perçois pas une menace. Non. Si j'étais directeur de théâtre, peut-être que je serais à un endroit pour observer ces phénomènes, un endroit différent qui peut-être me ferait dire les choses autrement, mais je vois pas, moi, dans mon désir et dans ce qui me conduit à écrire, à faire de la musique, je vois pas ce qui pourrait venir me mettre des barrières, rien.
Non, parce qu'on le sent, ce personnage, évidemment, affreux, parle d'une bande de propres à rien, de beaux parleurs, de pleutres ennemis de l'Empire occupés à vider les caisses de la province sans le moindre souci de la préservation de son rang. Voilà tout ce que cette équipée d'incontinent est à ses yeux. Il y a le champ lexical de la merde hein, qui revient tout le temps parle d'art. Et comme on parlait aussi de ces bruits de bottes, souvent, j'ai pensé à l'art dégénéré, à l'appellation des nazis. C'est un peu ça, quand il regarde ça.
Ouais. Absolument, c'est complètement ça. D'ailleurs, pour sembler être un monde comme ça flottant dans une géographie, une temporalité complètement inconnue du lecteur, par beaucoup d'indices, on peut recouper les choses et se rendre compte que, en effet, d'une part, il ne s'agit pas d'idéaliser les artistes en les opposant, en leur prêtant toutes les bons sentiments et les meilleures dispositions quant à la marche du monde. Mais il y a eu des époques dans l'histoire, et on en trouvera encore, où les artistes ne sont pas du tout à l'endroit où on les attend. Hein.
Mais pas dans notre époque. Enfin, je me suis dit, Bertrand Belin a l'air inquiet, finalement.
Non,
nous décrit le regard que les gens ont sur les artistes, des incapables qui foutent rien. Quoi.
Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Le peintre dans le livre, qui lui aussi attend aussi un nouvel ordre, il l'appelle aussi. Il y a eu des périodes, notamment vous parliez de l'art dégénéré. Bon, il y a eu une période où les artistes allemands, au début du XXe siècle, étaient à la recherche pour se battre un peu contre l'émergence de l'art américain, d'une identité, d'un art national allemand. Il fallait lui trouver des racines. Alors ils sont allés chercher des racines très profondément dans l'art médiéval, dans la gravure sur bois, pour asseoir le visage de l'art contemporain allemand du début du siècle. Et ce travail-là, il contribue à créer une l'idée d'une nation allemande et de ce fait, ils contribuent à la marche du monde et les artistes sont des créateurs de l'histoire également. Ils ne sont pas dans un monde alternatif fait de bisounours. Et les futuristes italiens avaient quand même des liens assez étranges avec le fascisme, etc. Donc, ils ne sont pas toujours des immaculés qui jouent de la guitare dans un coin. Ce n'est pas du tout le projet du livre, en tout cas.
Comment prendre et comprendre cette métaphore du super prédateur qui erre dans la ville? Il y a plusieurs pistes. Hein. Est-ce que vous attendez que la lectrice, le lecteur se soumette ou accepte une sorte de jeu d'énigme? Parce que c'est l'impression que c'est à la fois la peur, à la fois le danger. On ne sait pas s'ils existent vraiment, où ils sont. On ne les voit jamais, en fait. Puis il y a cette phrase, le faux, puisque c'est une rumeur qui monte dans la ville, le faux vrai se devait d'avoir l'air encore plus vrai que du vrai vrai. Là, moi, j'ai pensé évidemment aux fake news et tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est raconté, le complotisme aussi ambiant. Il y a ça dans Grand Carnivore.
Oui, il s'agissait de créer une situation d'angoisse, de cette peur particulière, celle aussi qu'on a vécue ces dernières années en ville, que beaucoup dans d'autres villes et dans d'autres pays encore aujourd'hui vivent et depuis toujours, c'est-à-dire un horrible qui-vive permanent, quoi. Le qui-vive qui nous dilapide les économies de la vie, quoi, qui nous fait perdre les heures, les jours, les semaines, les mois.
Et c'est dans cet état d'âme de qui-vive permanent que vous avez écrit
j'ai écrit dans le qui-vive permanent. Pendant ces trois dernières années, quand j'entrais chez moi, sur mon palier, il y avait un monsieur qui dormait devant chez moi. Je devais l'enjamber pour ouvrir ma porte, vous voyez. Et ce monsieur allait travailler à 7h du matin. Et puis, il y avait ce dehors, ce danger permanent. Donc, oui, je l'ai écrit un petit peu avec les nerfs aussi, ce livre. Donc, j'ai profité aussi de ça pour respirer un peu, quoi.
Vous comprenez, Eric Villard, cette notion-là dont parle Bertrand Belin, de cette atmosphère de qui-vive dans laquelle aussi les écrivains, les artistes doivent vivre peut-être pour écrire? C'est dans cet état général-là, dans cette atmosphère-là que vous avez écrit, vous, cette guerre des pauvres, le qui-vive?
J'évoquais tout à l'heure ce partage entre 42 personnes qui auraient le même patrimoine que 3,7 milliards. On voit bien que dans un tel contexte, ils ont une littérature qui s'imaginerait ne pas être inscrite dans le monde. C'est-à-dire une littérature qui, en tout cas, dans ce monde-là, c'est-à-dire tâcherait de faire l'économie de cette inégalité abyssale, deviendrait une littérature folklorique, en fait. Donc, à partir du moment où, tout simplement, on n'essaie pas de s'extraire du monde dans lequel on vit, et où l'écriture s'inscrit dans cette tension absolument terrible, d'une certaine manière, elle est habitée par elle, enfin.
C'est une grande violence qui vous réunit tous les deux, parce que c'est vrai que vos phrases, Eric Villard, et qu'on parle de décapitation ou pas, sont vraiment chargées de sentiments de rage, on sent ça aussi. Je suppose que vous avez travaillé aussi chaque phrase avec ce refrain qui revient toujours, l'homme promu directeur de son usine de boulons.
Oui, c'est une façon aussi de le ridiculiser
le
aussi. Voilà,
le putride, l'homme providentiel qu'on cherche, etc. On sent la violence vraiment à l'œuvre. Mmh. Vous avez travaillé chaque phrase comme ça pour la charger.
Oui, bien sûr. Il s'agissait aussi de mettre en lumière aussi ce qui peut, de l'expérience particulière de ce promu qui a un frère duquel il est jaloux, mais il est aussi jaloux de son épouse, il est jaloux de la vie que son frère mène, etc. Et que cette frustration accumulée qui ne pourrait concourir qu'au destin de cet homme peut concourir à un destin plus large, puisque ce personnage, en qualité de capitaine d'industrie, peut être ourdissant des projets politiques, voilà, transporte avec lui cette frustration qui est d'ordre intime et qui peut
devenir
éclabousser et devenir politique. Ouais. Et je pense qu'on a des personnages comme ça dans l'histoire contemporaine.
Oui,
et
puis les questions de voilà, ce qu'il faut à l'Empire unifié, c'est un homme providentiel. Pour terminer, je voudrais vous demander à tous deux, il est question d'ailleurs de prophétie dans Grand Carnivore. Ces lions, est-ce qu'ils annoncent une prophétie? Je voudrais juste vous demander à vous. Vous n'êtes pas des prophètes, mais vous êtes des artistes, vous sentez le monde. Comment vous percevez, ça va finir comment, là, ce qui se passe aujourd'hui, cette atmosphère? Vous sentez que ça peut déboucher? Vous êtes plutôt optimiste, plutôt alarmiste, plutôt sur le qui-vive, Eric Villard?
Je me garderai bien de faire des prédictions. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il se passe quelque chose et que l'avenir est ouvert. C'est-à-dire, ça me semble pas être sur le point de s'arrêter. Par ailleurs, enfin, ce qui pour moi fait écho à mon livre, ce qui m'a frappé en écrivant sur le soulèvement de l'homme ordinaire, c'est qu'au fond, c'est le moment de la négociation qui est tragique. C'est à partir du moment où le pouvoir se présente comme souhaitant négocier qu'en réalité, il est en train de rallier d'autres mercenaires et que les gens ayant accepté de négocier se font massacrer. Mais il me semble qu'aujourd'hui le grand débat qu'on leur offre, les gens sont un peu plus rétifs que jadis. Ils ont dû tirer quelques leçons de l'histoire et s'imaginer à juste titre que quand le pouvoir, contraint et forcé avec une main tordue dans le dos, leur propose de négocier, c'est avec des intentions qui sont peut-être pas tout à fait loyales.
Et Bertrand Belin, vous disiez, voilà, on entend des gens qui disent aussi, voilà, il faut un homme providentiel, il faut, on entend ça aussi, ce bruit de fond. Vous êtes plutôt, vous, optimiste ou encore le qui-vive va se prolonger?
Non, le qui-vive va se prolonger, parce que pour faire suite à ce que Eric Villard vient de dire, la suspicion quant à la qualité de ce qui pourrait suivre la parole bientôt donnée par les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, si il y a une telle suspicion que l'écoute ne se produit pas, il n'y a pas d'autre voie que la fureur. Donc il ne s'agit pas d'être pessimiste et d'en appeler à un soulèvement violent, mais manifestement il y a quelque chose qui a à voir avec une forme de surdité quand même qui s'est installée et qui semble s'être installée durablement. Bon, à moins qu'on puisse fabriquer un nouveau type d'appareillage pour pallier à cette surdité, il faudra peut-être, il y a peut-être en effet des solutions assez violentes qui se préparent. Oui.
Comme appareillage, proposons la littérature au moins, qu'on lise vos deux livres, Grand Carnivore de Bertrand Belin chez POL, La guerre des pauvres d'Éric Villard chez Actes Sud. Pour terminer, j'aimerais qu'on écoute justement un morceau, un extrait de votre dernier album Persona. Persona, c'est le masque d'ailleurs aussi en latin. Glisser, redresser, un petit mot sur cette chanson, Bertrand Belin.
C'est une chanson qui m'est spontanément apparue. Je pense qu'elle est finalement assez intime. Elle touche à une expérience de montagne russe vécue récemment, émotionnellement et nerveusement. Et puis, elle s'intègre aussi, elle vient rejoindre aussi les préoccupations que j'ai. J'ai cette sensibilité particulière à la fragilité des destins, quoi.
Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Stéphane Desmond à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter à l'infini sur franceculture.fr 7h avec Bertrand Belin, Éric Vuillard et le soulèvement de l'homme ordinaire. Et on écoute Glisser, redresser. Merci encore.
Madame, monsieur, madame, monsieur, j'ai glissé. On annonce un été de Canadair. croisée de Canadair. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don. Un été